Cinémag sur Radio Grand Ciel, une émission de l'option cinéma du lycée Rotrou de Dreux, proposée par
Sandrine Cornu,
Christelle Vaudève
et Thierry Méranger. Chers amis I et amis E, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de vous retrouver autour de quelques films qui sont diffusés à Ciné-Centre, à Dreux. En particulier, un premier film qu'a vu Christelle. Il s'agit d'un film de Cédric Angers qui s'appelle...
L'amour est une fête.
Alors Christelle, de quoi parle ce film ?
Alors ce film se situe au début des années 80, dans le milieu du cinéma porno. Alors entendons-nous bien, le film n'est pas un film porno, même s'il a une interdiction pour les moins de 12 ans. Ça reste très, très sage, disons-le. Ouf, voilà. Donc ça se passe dans le milieu du Peep Show à Pigalle. Et nous retrouvons le duo Lelouch... Canet en patron de Peep Show un peu endetté qui vont du coup se lancer dans la réalisation de films porno.
Alors avec un sujet pareil, on pourrait basculer dans tous les genres, ai-je envie de dire. Vers quoi va le film ?
Alors c'est là où je pense que le film a quelques limites, c'est-à-dire que d'un point de vue purement scénaristique, c'est un peu confus, on a un petit peu du mal à s'y retrouver. Le film a un peu un côté patchwork qui est un petit peu décousu. Finalement, contrairement à ce que le pitch pouvait laisser supposer, ça va quand même nous amener un petit peu du côté policier, puisqu'il se trouve sans déflorer le film, hein, que le duo donc Lelouch Canet est en fait un duo de flics infiltrés dans le milieu du porno afin d'arrêter des malfaisants, notamment au sujet de malversations financières et de blanchiment d'argent dans le milieu du porno donc.
Une sorte de film en trompe-l'œil donc.
Voilà, alors contre toute attente aussi, nos deux agents infiltrés vont se prendre au jeu et participer avec une certaine allégresse aux malversations qu'ils sont censés dénoncer.
Un petit côté ripou alors ?
Pas vraiment, non. Alors c'est plus par parce qu'ils sont séduits par un milieu où règne une ambiance très très joyeuse, très festive, tout ça a un petit côté un peu colonie de vacances. Alors c'est assez kitsch, hein, il faut bien le dire, enfin sauf pour amateurs invétérés des années 80, y compris donc la bande originale. On est vraiment dans une évocation donc du début des années 80 et l'évocation, j'allais presque dire en exagérant un peu, un peu d'un paradis perdu, c'est-à-dire que donc cette évocation donc très très joyeuse où hommes et femmes sont à pied d'égalité, où il n'y a aucune exploitation des femmes. Bon, c'est un petit peu idéalisé à mon sens, peut-être qu'on y reviendra.
Alors ce qui frappe aussi, c'est cette distribution très grand public, peut-on dire.
Oui, mais c'est ça. Donc on retrouve un duo qu'on avait déjà vu au cinéma, donc Lelouch Canet comme je l'évoquais. Alors bon, Lelouch est égal à lui-même. Hein. Après, bon, évidemment, le personnage fait que, bon, un petit peu balourd, pour dire. Moi, je trouve, à mon goût, que Guillaume Canet est très lisse. Hein. Enfin, moi, je ne l'ai pas trouvé autrement depuis le film de Christine Carrière en 2007, le film Darling, où il jouait aux côtés de Marina Foïs, où là, je l'avais vraiment trouvé très bien dans l'adaptation du roman de Jean Tellet. Alors, autre surprise au casting, c'est Xavier Beauvois, que j'ai mis un petit peu de temps à reconnaître, qui joue le rôle d'un réalisateur porno, alors tout à fait enthousiaste. Et là aussi, et c'est là où nous amène le film, c'est-à-dire un réalisateur qui a des visées artistiques, qui tourne en pellicule. On est quand même dans un milieu, enfin dans l'âge d'or du porno, hein, pour le coup, les années 70-80. Donc on tourne en pellicule, dans des extérieurs. Et donc Xavier Beauvois, qui du coup rêve de se tourner vers un genre plus mainstream, je dirais. Enfin voilà, un cinéaste, quoi. Et au titre du casting aussi, on retrouve Michel Faux, qu'on connaît peut-être plus au théâtre, mais qu'on a vu, notamment j'étais chez Né il n'y a pas très longtemps, au cinéma, qui à mon sens offre la prestation la plus géniale du film. Notamment, il nous offre une scène absolument incroyable, tout à fait improbable, où on est quasiment dans du cinéma surréaliste. Et voilà, c'est vraiment une interprétation remarquable en excentrique, complètement extravagant. Il est vraiment Il est vraiment formidable.
Alors un petit mot quand même du réalisateur, parce que ce Cédric Anger, ce n'est pas n'importe qui, et on le connaît un petit peu d'ailleurs.
Cédric Anger qui avait tourné en région centre son premier court-métrage qui s'appelait Novella et que nous avions vu au lycée Rotrou il y a quelques années maintenant.
Il était intervenu au lycée Rotrou, Cédric Anger, qui était auparavant qui était critique de cinéma d'ailleurs dans une revue qui s'appelle Les Cahiers du cinéma.
C'est ça, tout à fait. Et puis donc oui, la dernière fois Je viserai le cœur, où il avait déjà tourné avec Guillaume Canet.
Alors ce film au total, est-ce que c'est un film que tu conseilles? Est-il tout public? Est-ce que cela vaut le déplacement?
Effectivement, il est quand même classé moins de 12 ans. N'y allez peut-être pas avec vos enfants ou vos petits-enfants. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a, il y a vraiment... Enfin, moi, j'y vois presque plus un hommage à ce cinéma-là, à ces artisans du porno donc des années 70-80, qui vraiment exaltaient une insouciance, une allégresse, une liberté, bon, tout droit hérité de mai 68, évidemment. Et tout ça a été stoppé très brutalement, juste au début des années 80, évidemment, par l'arrivée terrible du sida. Et puis, comme le suggère le scénario aussi, l'arrivée de l'argent et d'un certain nombre de trafics liés à ce genre cinématographique. Voilà. Malgré tout, je l'évoquais un petit peu tout à l'heure, il me semble que c'est un petit peu idéalisé comme vision. Je pense que c'est assumé, parce que bon, il y a beaucoup de choses dans le film qui nous laissent croire que ça n'est pas le fruit du hasard et que je pense que Cédric Anger est parfaitement conscient de tout ça. Une vision donc un petit peu idéalisée donc de cette industrie du porno, qui d'ailleurs n'était pas encore une industrie précisément à ce moment-là, mais qui s'y dirigeait, j'allais dire, on voit toutes ces femmes, donc les relations hommes-femmes, tout à fait, tout le monde sur un pied d'égalité, où il n'est pas du tout question de la moindre exploitation, c'est un peu empreint de nostalgie.
Le deuxième film de cette semaine nous est présenté par Sandrine et ce film s'appelle Ma fille.
Oui, donc je vais vous parler de Ma fille. C'est un premier long métrage de Naïdra Ayadi que vous connaissez peut-être davantage comme actrice puisqu'elle avait remporté le César du meilleur espoir féminin en 2012 pour son rôle de Nora dans Police de Mai Wen. Elle est passée cette fois derrière la caméra pour adapter le roman de Bernard Clavel, Le voyage du père. Ce roman avait déjà été adapté au cinéma par Denis de la Patellière qui avait donné à Fernandel son plus grand rôle.
Ça remonte, quelques années.
Ça remonte en effet, mais ici Naïdra Ayadi place l'histoire dans une famille d'immigrés algériens. Il s'agit donc d'Hakim et de Latifa qui ont fui la guerre civile algérienne des années 90. Ils se sont installés dans le Jura où ils vivent dans le calme de leur pavillon avec leur fille Nejma de 14 ans. Leur fille aînée, qui est partie faire des études de coiffure à Paris, doit rentrer pour les fêtes de Noël dans la famille, mais elle envoie un message à Nejma, donc sa sœur, pour annuler. À partir de là, Latifa, la mère, reproche à Hakim d'avoir laissé leur fille partir à Paris et lui demande d'aller la chercher et de la ramener chez eux. Du coup, Hakim, accompagné de sa cadette, part à Paris. Mais la surprise est de taille en arrivant, car Leïla ne travaille pas dans le salon chic dont elle avait parlé à ses parents et n'a d'ailleurs jamais trouvé aucun patron pour être acceptée à son école de coiffure. On comprend pourquoi. En effet, on rentre dans un salon chic parisien peuplé de femmes blondes qui, malheureusement, au nom de Leïla, ricanent et on comprend que ses origines ne l'ont pas aidée. Hakim, désespéré, se lance alors sur les traces de Leïla qui est la grande absente du film, dans un Paris nocturne, anxiogène et interlope. En découvrant peu à peu la nouvelle vie de sa fille, l'homme qui était calme et posé au début va perdre petit à petit son sang-froid et son désespoir et sa colère sont appuyés par une caméra épaule très nerveuse qui le colle toujours avec des plans sur la nuque et des gros plans sur son visage de plus en plus tendu.
Alors, à quel genre pourrait-on dire que ce film appartient ?
C'est un drame familial, c'est une descente aux enfers d'un père qui découvre peu à peu le nouveau visage de sa fille, et c'est aussi un choc de génération, celle d'une génération taiseuse et pudique qui est représentée par Hakim et Latifa, qui n'ont jamais rien raconté à leurs enfants de leur passé. On va apprendre quelques bribes de ce passé grâce au père et à la petite de 14 ans qui sont tous les deux à Paris et qui vont petit à petit discuter. Ça va permettre le lien un peu plus fort de ces deux personnages. Et l'autre génération, comme celle de Leïla, est prise de liberté, qui, elle, n'accepte pas de vivre chichement comme ses parents et est capable de basculer vers autre chose pour vivre ses rêves. Alors, c'est un long métrage qui n'est pas parfait, bien sûr. D'ailleurs, est-ce qu'il y a un film parfait ? Je ne pense pas. Mais c'est vrai qu'elle souligne parfois un petit peu trop certains traits, notamment sur Paris. L'agressivité, la violence, la luxure et la perversité de Paris sont un peu trop appuyées parfois. Mais il y a un joli travail sur la couleur et surtout la justesse du jeu de Roche Dizem, car en effet, j'en ai pas encore parlé, mais c'est le film repose sur lui. Il est à la fois il est parfois très doux, mais il peut s'avérer brutal. Et on ne peut qu'être en empathie avec ce personnage qui
appartient maintenant à la génération des pères, parce qu'il a un peu mûri, Roche Dizem.
Oui, c'est ça, Roche Dizem, qui a quand même derrière lui une belle carrière, hein, puisqu'il est à la fois acteur et réalisateur. On se souvient de ses rôles pour André Téchiné, dans J'embrasse pas, ma saison préférée, Alice et Martin, ou encore dans les films de Xavier Beauvois, avec Le Petit Lieutenant notamment. Et son prix d'interprétation collectif à Cannes pour Indigène de Rachid Bouchareb. Mais c'est aussi un réalisateur, puisqu'il avait réalisé Omar m'a tué en 2011, ou encore Chocolat en 2016, et il est actuellement en train de tourner un film qui s'intitulera Persona non grata. Ici, Roche Dizem joue avec beaucoup de retenue, il y a une très belle séquence finale, et les gros plans le mettent vraiment en valeur, et mettent en valeur son interprétation qui est très belle.
Comme d'habitude, nous nous quittons en musique avec un extrait de la bande originale du film L'amour est une fête. Il s'agit, tenez-vous bien, d'un succès qui va vous rappeler quelque chose. C'est le fameux Say It and So de Murray Head. Bonne semaine.
Say it ain't so, Joe, please. Say it ain't so. That's not what I wanna hear, Joe, and I got a right to know. Say it ain't so, Joe, please. Say it ain't so. I'm sure they're telling us lies, Joe, please. Tell us it ain't so. They told us that our hero, the lady's drunk call, he doesn't know how to go on. They're clinging to his charm and determined smile, but the good old days have gone. And the empire may be falling apart. The money has gotten scarce. One man's word held the country together, but the truth is getting fierce. Say it ain't so, Joe, please. Say it ain't so. Pin our hopes on you, Joe, and they're ruining our show. We're gonna get burned. We're gonna get burned. So gonna.